Nous sommes le 6 octobre 2021 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bar!
Bonsoir à tous, bonsoir à Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Zergy.
Ah! Ah!
Ah! Zergy, il est parti, il avait un besoin pressant. nous irons comme ça. Voilà, donc il est parti là-bas, très loin, au pays des toilettes. et nous allons donc devoir continuer sans lui et sans sa flamme. Mecton n'est pas là pour des raisons aquatiques.
J'allais dire de fuite.
C'est peut-être pas, voilà.
Mais
ça pourrait. Ben voilà, c'est pas interprété comme ça.
Désolé, j'étais parti prendre de la limonade.
Ah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Bref, donc nous allons avoir une émission relativement chargée où nous allons parler des deux derniers directs. Donc le direct de la carotte, hein, le Nintendo Direct.
Attends, ils ont encore annoncé un prochain direct sur Animal Crossing.
Ça avait été annoncé dans le premier, voilà. Donc ça celui-là, on.
C'est raccord. Voilà,
le direct de la carotte et le Smash Direct, puisqu'il y a eu. C'est bon, maintenant on va pouvoir remettre Tonton Sakurai dans son cercueil.
Il va pouvoir prendre des vacances bien méritées de au moins chaque année.
C'est clair que ça va être compliqué. Donc on va commencer, voilà, il n'y aura pas de tour de table de lecture, on va tout de suite commencer avec le Smash Direct. On a eu deux nouvelles importantes, on va essayer de résumer ça comme ça. La première, c'est plus de costumes Mii, y compris le Doomslayer.
Qui a un costume assez chouette d'ailleurs, je joue pas Mii Gunner, mais... Il est cool.
Il est très très cool. Enfin, en tout cas, il est très joli. Ça a permis au compte Twitter de Doom, qui faisait pas mal de blagues sur le sujet il y a 2 ans maintenant, d'en faire une dernière qui était.
Mais d'ailleurs, les costumes Mii, on remarquera que souvent quand ils ont des casques, c'est quand même vachement mieux que quand ils ont des perruques.
Ouais, oui, parce qu'effectivement, c'est un peu compliqué.
D'ailleurs, contrairement d'habitude où il finit par le costume Mii, là il a commencé directement par ça. Hein. Genre, j'évacue le truc qui coûte cher. Le truc qu'on est là pour tirer de la thune aux gens. Et ouais. Puis on passe à la suite.
Alors attends, les costumes Mii sont payants à part?
Ils sont payants à part, ils sont pas inclus dans les Season Pass. Je sais plus combien c'est. C'est pas très cher, hein. Enfin c'est pas très cher. C'est moins d'1 €.
Oui, mais tu le payes quand même, quoi.
Moi, je trouve ça cher pour ce que c'est, hein, à savoir un truc qui devrait être dans le jeu ou fourni avec le Season Pass.
Non, puis pour un costume, pour un personnage qui est déjà pas extraordinairement extraordinaire.
Ouais, après, je pense qu'ils te font payer parce que c'est des licences qui sont pas Nintendo et en fait, bah, faut que tout le monde s'y retrouve, quoi.
C'est bizarre parce que dans d'autres contextes, ça pourrait être considéré comme une opération promo où on te le filerait gratos.
Bah ouais, bah écoute, c'est Smash Bros. Il y a des gens qui sont prêts à les acheter. Hein.
Bah, ils les vendent, donc il y a des gens qui sont prêts à les acheter.
Ça. Ouais, c'est ça. Hein. C'est que ça a dû marcher sur le Smash 4, c'est là où ils avaient commencé. Et du coup, bah, ils les ont remis dans le Ultimate. Ouais.
Bref, donc on a eu un ou deux autres costumes, me semble, mais qui étaient plus, enfin, moins marquants.
Je sais plus, c'était quoi les autres.
Oui, voilà. Donc c'était moins marquant. On va résumer ça comme ça. On s'en bat les couilles, donc c'était
marrant. Il n'y avait pas de costume Kingdom Hearts d'ailleurs. Bon, ça va, je regardais.
Donc, nous avons le nouveau et dernier personnage qui vient de Kingdom Hearts.
Il s'appelle Sora, comme la boîte de Sakurai.
Ha ha ha, quelle coïncidence!
Oh là là, même lui fait la remarque en fait. C'est qui est marrant.
Ah, oh, ayo gozaimasu.
Ah, kusumimasen deshita. Sakurai Masayo des.
Voilà, donc c'est bien parce qu'on a pris un grand verre de déception avec une petite pointe de sel.
Moi, j'avoue qu'honnêtement, Kingdom Hearts, je m'en fous.
C'est ça, je sais pas si c'est le cas de beaucoup de gens. Il y a des vrais gros fans de Kingdom Hearts.
C'est pas une série très Nintendo. Je veux dire, jusqu'à présent, on a eu un épisode. Enfin, un épisode
sur 3DS.
On a eu un épisode sur GBA qui était Chain of Memories. On a eu l'épisode sur 3DS, le fameux 358 divisé par 2 jours. Le jeu qui a donné la réputation à Kingdom Hearts d'avoir des noms à coucher dehors. Ça, c'est pas,
ah, c'est pas une réputation, hein, c'est une réalité. Hein. Je sais pas quoi, 2.5 HD Remix, excuse-moi.
Ouais, non, on va en parler après de ça.
Non, 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 là, s'il vous plaît, non.
Le 2.8 Final Chapter Prologue.
Putain.
D'ailleurs,
oh
bonne
là
blague,
là.
Hein, dans le début de Kingdom Hearts 3 commence par Kingdom Hearts 2.9. Donc, autant vous dire qu'ils sont allés très loin là-dessus. Hein.
Il y avait pas un disque spécial, je crois que c'est sur Kingdom Hearts. Bah, c'est peut-être le 3 du coup, où il y avait un disque en plus sur la version PS3 ou PS4 ou je sais pas quoi, qui s'appelait The Adventure So Far, et qui était genre mais c'était une vidéo quoi, pour t'expliquer
alors,
ce qui s'était.
Ouf,
de 2 heures pour t'expliquer ce qui s'était passé jusqu'à présent.
Tu vois, les compilations de Kingdom Hearts, c'est aussi compliqué que l'histoire de Kingdom Hearts. On pourrait y passer pendant un bon moment.
Ouais, voilà, donc on va pas faire ça.
C'était pour la sortie de Kingdom Hearts 3, ils avaient sorti ça. Et après, ils ont sorti aussi sur Xbox 3 et PS4 une compilation avec tous les jeux Kingdom Hearts. Quasiment.
Sauf. Sauf ceux qui intéressaient tout le monde.
Bah non, ils sont tous, même les jeux web, ils ont mis des cinématiques. Enfin, tu peux pas y jouer, mais ils ont des cinématiques qui t'expliquent l'histoire 1000 ans avant, quoi.
Waouh. C'est drôlement bien.
Bref.
Donc ce nouveau personnage, voilà, que veut-il?
Alors moi j'avoue que j'ai été interrompu en visionnage du direct et j'ai pas pris le temps de leur mater depuis au boulot. Donc j'ai pas vu les, je me suis arrêté aux coups normaux. Globalement on va avoir un personnage qui est plutôt flottant, qui est un des personnages les plus légers du jeu. Il est plus léger que Marie, c'est dire.
Ah oui, donc ça va faire. Et c'est un clépéiste donc.
Un clépéiste, c'est un cléfighter comme on dit. Comme dans le fameux jeu 64. Je me permets de placer cette blague. J'ai honte.
Tu devrais fort.
Donc c'est en fait, c'est encore un animé Swordman, comme on dit dans les milieux consacrés. Ce qui correspond quand même à peu près à la moitié de tout ce qui est sorti en DLC, quand même, hein, depuis le temps.
Oh god.
Voilà, c'est ça. Et bon, il a un contre, hein, comme tous les mecs qui ont des épées. Hein, parce qu'il ne faut pas être original dans la vie. Il fait de la magie, si mes souvenirs sont bons, avec B, et c'est globalement un personnage qui est fait pour attaquer dans les airs et de profiter du fait qu'il ait vraiment des bons sauts et qu'il puisse sauter haut pour aller chercher les gens loin et revenir. Il a beaucoup d'options pour faire ça. Bon, encore une fois, j'ai loupé la moitié de la présentation, donc j'ai un peu zappé. Je suis désolé. Et puis t'auras un stage Kingdom Hearts qui est, j'avoue, est assez joli. Hein. À un moment, le fond du stage change. Dans Kingdom Hearts, ils ont fait des trucs vachement sympas. C'est que t'as des décors qui sont des vitraux, un petit peu comme ce qu'on a avec Wind Waker. Et en fait, quand tu vas rentrer dans le stage, ben, tu vas arriver dans une zone sur fond noir où ces vitraux vont apparaître en fond, un peu, un côté un peu Disney avec des paillettes et tout. C'est joli. Disney qui d'ailleurs apparaît dans les copyrights désormais de Super Smash Bros.
Du coup, ça, c'est pas un peu. Enfin, c'est un long shot, mais ça fait quand même la petite boîte qui monte et la grosse qui descend qui se croisent au milieu.
T'as laquelle est la petite qui monte et la grosse qui descend?
Je vous laisse juger.
Je vous laisse juger.
Mais ça fait bizarre de voir Disney et Nintendo se croiser, même si c'est de très 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 loin.
Bah,
puisque bon.
Surtout qu'en plus, ce qui va être dans le jeu, ça va surtout être les personnages designés par Nomura. Le mec qui a fait
oui,
Code de Sephiroth.
On risque pas d'avoir Mickey, quoi.
Voilà, il n'y a pas Mickey, il n'y a pas Donald, toutes les traces de Mickey et Donald ont été effacées du jeu, on les verra pas.
C'est du révisionnisme vidéoludique.
C'est exactement ça, c'est de la cancel culture. je sais pas où on va là-dessus. Mais
non, je sais pas où, ouais, voilà, je sais pas où cette blague est partie, mais elle est trop loin déjà. Il faut qu'elle revienne.
On n'aurait jamais dû la faire. Et bah après, il y a tout le truc habituel, hein, on va avoir des musiques, donc qui sont à la base des musiques de Yuko Shimomura, mais on va voir qui les remixe. Je suis assez curieux de voir des trucs genre par Yuzo Koshiro en mode un peu dance floor, ça pourrait être rigolo. Et voilà, on a les trucs, les esprits, les trucs habituels. Et surtout, le truc assez fun, c'est que un peu comme le héros de Dragon Quest qui avait 4 apparences différentes. Et bah Sora va avoir vraiment des appar... enfin, va avoir aussi plusieurs apparences différentes basées sur ses costumes des différents jeux Kingdom Hearts. Alors, vous avez la variante rouge, vous avez la variante noire, hein. C'est pas... Ils sont quand même assez proches. Et il va avoir un costume super sympa, qui est basé sur... Alors pour ceux qui connaissent pas Kingdom Hearts, c'est... En gros, le gros du jeu, pour résumer Kingdom Hearts, c'est Sora qui se balade.
Attends,
avec Donald et Mickey.
Excuse-moi, tu vas résumer Kingdom Hearts là maintenant tout de suite?
Ouais, voilà.
T'es sûr que tu vas faire ça?
Dans 5 heures.
Non, voilà. Donc, il se balade dans les mondes Disney. Et à chaque fois qu'il est dans un monde Disney, il prend un petit peu l'apparence locale. Je vous épargne...
Il s'adapte aux autochtones.
Voilà, c'est les autochtones. Et du coup, dans le 2, je crois, il y a eu un monde...
Attends, le 2, le 2.5, le 2.9,
on
le 2.8...
On s'en branle. Il y a eu un Kingdom Hearts 2 sur PS2, c'est tout ce qui compte. Je ne sais pas les histoires de Heartless. Et... Bon, voilà, je ne vais pas revenir en train.
Stop.
On va arrêter tout de suite. Et du coup, il y a un monde qui est basé sur Steamboat Willie, qui est un court-métrage de Mickey
oui.
très très connu.
Extrêmement connu, oui.
Et ben, du coup, ils ont vraiment repris le design. Enfin, quand, dans le jeu Kingdom Hearts 2, ils ont repris l'esthétique et le design pour les personnages. Et du coup, Sora a un modèle spécifique en noir et blanc avec une petite tête de personnage de dessin animé de l'époque, assez expressive. Et le costume 5 de Smash Bros, c'est ce costume-là de Sora en façon Mickey des années 30, avec tout un tas d'expressions spécifiques et tout, autant dire que je ne jouerai qu'avec ce costume.
Putain, mais il doit y avoir un boulot de fou sur un truc comme ça, parce que tu te rends compte, les mecs ont dû réanimer l'intégralité du personnage juste pour ce costume.
Alors, je pense pas qu'ils ont réanimé juste l'intégralité du personnage, apparemment, c'est vraiment les expressions faciales. Mais il y a eu un soin un peu particulier, je pense, sur le design et du costume. Enfin, ils ont dû redémodéliser une cinquième fois Sora, quoi. Ce qui en fait,
oui.
En fait, il y a vraiment, en termes de grosses variantes de costumes, c'est celui qu'on a le plus dans le jeu. Sachant que il y a quand même pas mal de DLC qui ont beaucoup de variantes de design. Le héros étant celui qu'on a 4, mais vraiment différent pour le coup en plus. Donc voilà, c'est quand même pour un dernier DLC, il y a du taf qui a été accompli et une volonté de faire quand même un truc assez cool.
Bon, en tout cas, ça fait plaisir. On a appris dans la foulée que Kingdom Hearts débarquait sur Nintendo Switch en version Cloud.
Ouais, alors pas des personnages de Final Fantasy VII. Hein.
Bref, donc c'est un petit peu la déception quand même.
Bah alors, autant pour le 3, je comprends parce que ça reste un jeu PS4. Autant pour les remakes, les compilations du 1 et du 2, c'est des jeux PS3 à la base. On aurait pu avoir des versions physiques, ça aurait été un peu mieux. Autant j'ai pas de problème avec le démat, autant le cloud, je suis pas tout à fait convaincu de la stabilité en jeu, quoi.
J'ai l'impression que chez Square Enix, on a un peu fait le moindre effort. Après, il y en a d'autres, hein, des éditeurs qui ont fait ça. Control sur Switch, alors ça aurait peut-être été un peu compliqué à porter, parce que là, c'est peut-être un jeu un poil plus ambitieux. Mais c'est vrai que autant le 3, je peux comprendre, parce que de la PS4 à la Switch, il aurait peut-être souffert. Même si la conversion aurait peut-être été techniquement moins difficile.
C'est le Unreal Engine, hein, après Kingdom Hearts 3, donc en soi, c'est jouable.
Bah, en 30 images secondes en 720p, c'est effectivement peut-être gérable, hein, parce que finalement, des jeux Unreal Engine 4, on en a un certain nombre sur Switch, et ça marche de manière générale pas si mal que ça. Mm. C'est rarement extraordinaire, mais c'est vrai que généralement ça marche correctement. Surtout que j'ai pas l'impression que ce soit des jeux qui soient techniquement extrêmement exigeants pour les machines. Après, est-ce que Square Enix les optimise avec le cul ? Oui, clairement. Donc, bon.
Il y a peut-être aussi une volonté de faire ça à moindre frais parce qu'on sera sur Switch et on veut faire un peu de promotion pour. Enfin, on va l'accompagner avec le jeu, quoi.
Oui, ce serait pas très étonnant.
Bah, sachant que tu vois, le dernier jeu, là, Memories of Melody, je sais plus c'est quoi le nom, qui est un jeu musical,
oui.
Lui il est en natif, donc.
Tout à fait.
Non, mais c'est vraiment du moindre effort.
Je trouve ça un tout petit peu dommage. Moi, tu vois, ils auraient annoncé que la compile, la 100-100 Kingdom Hearts 3 sortait sur Switch en physique, machin. Franchement, je pense que ça se serait vendu comme des petits pains sans aucun problème en plus. Donc,
Bah, j'aurais peut-être été tenté, tu vois, justement faire le 1 et le 2, peut-être pas les autres qui vont avec, mais ça fait partie un peu de mes trous dans tout ce qui est JRPG Kingdom Hearts parce que j'ai jamais regardé. Enfin, j'ai jamais joué. Je me dis que ça aurait pu être l'occasion avec la compile sur Switch.
Donc, on va s'écouter un petit morceau de la bande originale de Darksiders 3 qui est sorti vendredi dernier sur Switch. Ça fait plaisir parce que du coup, sur Switch, on a les 4 Darksiders. 1, le 2, le 3 et Genesis.
Et non, c'est pas le 4.
Ce n'est pas le 4, oui. Ils savent pas compter jusqu'à 4 non plus.
C'est l'origine.
C'est ça. C'est l'espèce de préquel avec guerre et Discord. Dont on a d'ailleurs, me semble-t-il, parlé dans un jeu de jeu bar peut-être très brièvement.
Oui,
et on a dû parler de Darksiders au global, mais voilà, du coup le 3 est enfin arrivé. Ça fait plaisir. Il a une BO qui est assez fofolle, composée par monsieur Chris Velasco. Et donc on va s'écouter un petit morceau qui s'appelle bah, tout simplement le thème de Fury, qui est l'héroïne de ce Darksiders 3. On se retrouve dans un tout petit peu moins de 3 minutes. À tout de suite.
bullshit.
Et nous voilà de retour.
Tour.
Et donc nous allons parler de ce fabuleux Nintendo Direct de la carotte. Parce que bon, on s'est quand même bien fait. J'avais oublié un truc dans le conducteur, je l'ai rajouté un peu à l'arrache, donc du coup voilà. On va commencer par ce que Nintendo a appelé les headlines, donc le tout venant, on va dire. Les petites annonces, les trucs un peu, voilà,
genre les DLC, les trucs en téléchargement, les jeux dont tout le monde se branle.
Les jeux dont il n'y a pas grand monde qui s'en fout, alors on sait déjà qu'ils sortent, donc finalement ils sont déjà annoncés, donc finalement c'est pas très très grave. Voilà, et ensuite on fera les gros trucs. Alors dans les gros trucs, il y a des très gros trucs, et puis il y a des moins gros trucs. Mais voilà, c'est Nintendo qui classe, c'est pas nous, donc...
Il y a un moment on va se marrer.
Il y a un moment on va bien rigoler. Il y a plein de moments où on va bien rigoler.
Je ne sais pas encore lequel. Ah oui, t'as oublié un truc majeur dans le conducteur, effectivement.
Alors, je sais pas si on parle de Hexriser ou...
Oui, non, c'est vrai, tu l'as pas vu non plus.
Voilà, donc là,
mais il manque le film de Mario. Hein.
Le quoi?
On en parlera le moment, mon dieu. Tu sais Jack Black qui fait Bowser. Hein.
Ah oui, non, mais ça, moi, j'ai oblitéré ça. Hein. Je me suis dit qu'on s'en foutait. Donc... J'essaie d'avoir un peu de self-respect, tu veux.
C'est trop tard.
Alors, il y a un mec sur Twitter quand même. Non, mais voilà, le diable est sorti de la boîte, mais voilà. C'est très bien Fallout Dreamland. Merci, JBC.
C'est The Last of Kirby.
C'est un peu ça. Donc, il y a eu quand même un mec sur Twitter qui a dit: vous allez voir que le jour où il y aura un film Mario, ce sera pas Charles Martinet, ce sera un connard genre Chris Pratt. c'est génial, parce que le tweet, il a genre de 2017, un truc comme ça. Donc, le gars est tombé pile dessus, quoi. Je trouvais ça assez épique. Bref, j'essaierai de vous le retrouver éventuellement, parce que c'est quand même...
Ça, je veux bien, parce que putain, c'est ouf. Hein.
Extrêmement drôle. Extrêmement, extrêmement drôle. Bref, donc nous allons commencer ces headlines par Mario Party Superstars, dont on se fout un peu.
Un peu. Enfin, c'est Mario Party, quoi.
C'est Mario Party, c'est sympa, ça va reprendre des boards qui existaient déjà dans Mario Party 1 et 2, donc probablement les meilleurs de la série.
Ouais, bah alors du coup, il n'y en a vraiment que 5.
Non, il y en a plus que ça.
Ouais, je crois que tu avais dit 5 boards.
5 de Mario Party 1 et 5 de Mario Party 2 pour moi.
Ah! Ce serait déjà plus intéressant.
Ce serait déjà plus intéressant.
Parce que si c'est juste 5 boards.
Si c'est juste 5 boards, c'est un peu raide.
C'est un petit peu nul à chier.
Ce qui est un petit peu dommage, surtout, c'est que ça aurait pu être un DLC du premier.
Bah, je me souviens quand il avait été annoncé à l'E3 avec Mecton, vous étiez un peu genre, on se fout un peu de notre gueule.
Oui, et bien, je pense que c'est toujours le cas.
C'est bien, tu me rassures, vous avez pas changé.
Non, je pense que, enfin, honnêtement, c'est un peu. Ouais, je trouve ça un peu dommage.
Ah non, c'est que 5 plateaux tirés des jeux Mario Party sur 64, c'est ce qui a marqué sur la page.
Vache, c'est raide quand même.
Ouais, surtout 5, quoi. Dommage.
Ouais, bon. Ok. Bah écoute, c'est voilà, je maintiens, c'est un petit peu raide. Voilà, c'est tout ce que l'on dira sur Mario Party Superstars, pardon. Bon. Ok, c'est le cash grab habituel.
Ouais, ça se voit un peu trop.
Là, ouais, ça commence quand même à se voir. Déjà, Super Mario Party, c'était pas un mauvais jeu du tout, mais tu sentais que le truc était quand même un poil chiche par rapport à ce que ça aurait pu être. Il y avait certes plein de modes, mais finalement, les plateaux, qui est quand même le mode que tout le monde joue, ils étaient peu nombreux, pas forcément très intéressants.
Ouais, du peu que j'avais vu les plateaux sur YouTube, on se faisait chier.
Alors les autres modes de jeu sont par contre plutôt bien foutus. Donc si tu veux, c'est... Bon, finalement, t'avais un pseudo-équilibre. Là, honnêtement, si c'est juste des plateaux de la version de 64 et rien de plus, enfin, qu'il n'y a pas quelque chose en plus, c'est-à-dire s'il y a 10 plateaux au total, dont 5 qui sont repris de la N64, ok, très bien, pas de souci. Si t'as des modes pour pimenter un peu le truc, ok, très bien, ça peut... Voilà. Moi, jusqu'à présent, ce qu'on m'en a montré, ça me donne pas envie. Hein.
Ah ouais, bon.
Voilà. Je le dis, pourtant j'aime bien Mario Party, hein. Je crois que je les ai à peu près tous. Il doit manquer un sur Wii, donc c'est pour te dire à quel point franchement Mario Party, je trouve que c'est un bon kiff. Mais voilà. On va enchaîner avec The Isle Dragon Roars. Alors je me souviens plus exactement comment ça s'écrit, donc j'ai fait ça comme ça.
Je me souviens même plus à quoi ça ressemble.
Alors c'est le jeu de cartes de.
Ah, Yoko Taro.
Voilà.
Ah, bah en vrai ça s'intéresse.
Bah en vrai ça a l'air pas mal.
Ah, c'est Yoko Taro, donc il y aura sûrement un moment où tu auras un twist qui va te mettre la dépression ou qui va remettre tout en cause.
Voilà, et je me dis que ça peut être très sympa.
Surtout c'est Yoko Taro qui fait pas du Drakengard ou du Nier, donc c'est plutôt intéressant.
Voilà, et en tout cas, donc c'est une sorte de jeu de cartes, ça ressemble finalement, oui, comme tous les jeux de cartes, ça ressemble à Magic, hein. Voilà, enfin, pas tout à fait, on n'a pas vu vraiment de séquence de jeu.
Ça va ressembler surtout comme à peu près tout, enfin, je veux dire, comme tous les jeux à base de cartes qu'on a sur en jeu vidéo, ben, de tout ce qui va être Slay the Spire notamment. Donc ça va être très simplifié, ça va sûrement être du deck building.
Probablement, en tout cas, le design a l'air très sympa. Il y a effectivement l'air d'y avoir un vrai truc derrière.
Ça se prête bien à. Ça va bien se prêter à du portable sur Switch, pour le coup.
Oui, surtout si on peut jouer avec ses doigts pour placer les cartes et tout ça, ça peut donner des choses très
Surtout
sympas.
quand tu manges un kebab, ça donnera des choses très
Exactement.
simples.
Sur ta Switch OLED, que tu pourras mettre plein de traces de kebab dessus.
Vu que l'écran est plus brillant, tu verras
Tu
à
verras
travers
bien
le gras.
C'est vrai que tout l'avantage de l'écran glossy, hein, c'est-à-dire qu'il y a de la lumière dessus, tu vois plus rien, et en plus ça tâche avec le kebab. Voilà, parfait. Putain, alors je vais noter ça parce qu'il faut absolument que je l'écrive dans si je fais une petite critique de la Switch OLED, je pense que je prendrai un point d'honneur à expliquer comment on peut manger un kebab dessus.
Le samedi,
Putain,
avec
Martin
Benoît Hamon
va
et
dire à
Star.
sa femme, j'emmène les enfants au McDo, j'ai un test à faire.
C'est très important. Très 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 important. Nous avons eu ensuite le second DLC de Hyrule Warriors 2.
Alors,
enfin Hyrule
est-ce que vous
Warriors.
avez compris ce qu'il allait y avoir dedans? Parce que je sais qu'il y a des trucs en plus en scénario, mais j'ai pas compris
Alors,
de quoi ça allait parler.
j'ai rien bité.
Voilà, tu me rassures.
Donc, il y a des trucs, il va y avoir des bouts d'histoire, il va y avoir des gens. Il va probablement y avoir des personnages moches au design douteux
J'ai
et
vraiment
au.
l'impression que même Nintendo s'en fout des DLC d'Hyrule Warriors 2 quand même.
Bah, est-ce qu'ils en avaient quelque chose à foutre des DLC d'Hyrule Warriors 1?
Est-ce qu'ils en avaient
Si,
quelque chose
ils
à
les ont
foutre?
vendus sur 3DS.
Oui, alors en fait, Hyrule Warriors, la carotte, c'est de l'avoir acheté sur Wii U, parce que quand t'achètes la version Switch, t'avais tous les DLC de la version 3DS et tous les DLC de la version Wii U.
Ouais, c'est ça, tu pouvais taper toutes les cartes du mode aventure et taper sur des mecs ad nauseam jusqu'à ce que t'en puisses plus.
C'est ça. Et on me
Demander
dit
au
que finalement,
secondiste.
pour Edge of Calamity, qui était un très bon. Le mode solo était vraiment très bien. Là, pour le coup, j'ai vraiment pas grand chose à dire avec une histoire qui était, certes, peut-être pas aussi ouf que ce qu'on nous avait vendu, mais globalement qui se tenait et qui était très sympa. Je pense que je vais attendre la définitive édition dans 2 ans et ce sera très bien. Voilà, sur Switch
Bah.
Pro.
Oui. Bon, je pense que je le prendrai peut-être. Faudra que je regarde ce qu'il y a à l'intérieur et que je me renseigne. Mais bon, je vais Hyrule
Mais ça, non, ça marche bien, hein, je dis pas, toujours pareil pour un mousseau, quoi. Quand t'as envie de taper, 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 bah ça marche bien.
Warriors. Ouais, et puis tu tapasses des gens avec Urbosa, c'est marrant.
Oui, voilà, Yorbossa, ça c'est vrai que ça rattrape beaucoup de choses.
Urbosa et Impa, ouais, ça m'a fait mon jeu.
Voilà, moi c'est clairement. Urbosa, moi elle m'a fait la game, hein, je veux dire, c'est tellement le kiff
Best
d'aller.
waifu.
C'est un peu ça.
Un peu.
En plus, en vrai, c'est un peu ça. Mais non, non, en plus, elle a des répliques sympas. Non seulement elle a des répliques sympas, elle a des pouvoirs sympas, elle se manipule bien. Enfin, voilà. Franchement, je suis très très fan d'Urbosa. Chocobo Grand Prix. Voilà, suivant.
Alors, disons que il y a 34 millions de Mario Kart 8.
Ouais,
Du
ça.
rappelement, 34 000 de Chocobo GP, je pense. En vrai, ça a l'air mignon, mais on a
Je pense
Mario
que.
Kart, quoi.
C'est un peu ça. Ouais.
Je crois qu'il va y avoir beaucoup de OSEF.
Oui, énormément.
C'est un peu ça.
Énormément. Animal Crossing direct sous peu, donc ça c'est pour demain ou après-demain?
C'est la semaine
Ou
prochaine.
semaine prochaine, pardon. Donc semaine prochaine, donc voilà, si vous voulez votre dose saisonnière, pardon, d'Animal Crossing, il y en aura là. Avec du Halloween, avec
Alors,
des trucs de l'hiver et ainsi de suite.
ceci dit, je suis curieux parce qu'ils sont censés avoir arrêté les mises à jour de Animal Crossing à bout d'un an, et là, ils nous parlent de mettre des trucs en plus.
Ils en vendent des putains de camions.
Oui, je me doute. Il va y avoir un DLC qui va popper.
Un DLC
Oui.
Doom.
Putain, alors ça, ce serait énorme. Ça, en vrai, moi, je serais très client. Bref, nous avons une mise à jour de Mario Golf Super Rush. On savait qu'il y avait encore quelques parcours qui arrivaient. Là, il y en a deux nouveaux qui arrivent. Je vous avais que j'ai pas noté quels étaient les parcours en question. Je sais que les parcours de Mario Golf Super Rush de base étaient pas trop mal, peut-être un petit peu trop réalisto, pas rigolo. New Donk City était très bien. Voilà un parcours qui était original et rigolo. New Donk City. Et là, il y a donc deux nouveaux parcours. Bon, je suis content que le jeu soit mis à jour. Je trouve ça dommage que ça n'ait pas été dispo Day One sur la cartouche. Parce que ça aurait peut-être permis au jeu d'avoir un peu plus de consistance dès le départ.
Ouais, j'imagine que c'est pour relancer un peu l'intérêt en ligne.
Ouais, enfin, ça me paraît...
Bon. Ils ont fait la même chose que pour Mario Tennis. Hein.
Ouais, oui, je sais. Enfin, personnellement, les jeux en épisode...
Ouais, je comprends, c'est dur d'y revenir, en fait, quand t'es passé à autre chose.
C'est ça, voilà. Alors, autant sur quand le jeu est vraiment très très bon, quand il est très orienté multijoueur, je pense à Splatoon, Splatoon 2 et autres, c'était pas gênant de venir retrouver un nouveau plateau, une nouvelle carte, une nouvelle arme et tout. Je trouve que tu t'es plus motivé. Là, sur un Mario Golf, honnêtement, moi, j'ai fini le mode solo. Même pas le mode aventure, d'ailleurs, j'ai juste fini le mode solo, c'est-à-dire que j'ai fait tous les parcours... Et j'ai atteint le score que j'avais envie d'atteindre. J'ai pas envie de relancer le jeu, à moins juste pour essayer un parcours, oui, mais... Bon, voilà, quoi. Sans plus. On a eu aussi Star Wars Knight of the Old Republic.
Qui est un remake d'un jeu de 2003, hein.
Petite surprise.
Non, c'est un remake, c'est un portage, pardon.
Oui, c'est un portage d'un jeu de 2003. Alors, Star Wars sur Switch, c'est une grande histoire d'amour, puisqu'on a maintenant Star Wars Jedi Knight 2, Star Wars Jedi Knight 3... Alors, Star Wars Jedi... Attendez. Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast, Star Wars Jedi Knight 3, Jedi Academy, Star Wars République Commando, qui est très bien, d'ailleurs. Star Wars épisode 1 Racer, donc là maintenant on a Star Wars Knight of the Old Republic, ça veut dire que tous les jeux Star Wars un peu sympas du début des années 2000 quasiment sont sur Switch. À très peu de choses près.
Sauf Rogue Leader.
Ça fait mal ce que tu dis.
Bah moi aussi ça me fait mal de le dire parce que...
les deux Rogue Leader, Rogue Squadron.
Ouais. Surtout Rogue Leader pour moi ça reste... c'est une des meilleures expériences Star Wars que j'ai faites. Hein.
Alors on en parlera dans l'émission spéciale GameCube, mais en fait, en y ayant joué, Rogue Squadron est quand même meilleur. Sur tout un tas d'aspects.
Ah, mais j'ai pas fait Rogue Squadron, mais...
Après, Rogue Leader, tu lançais ça dans ta GameCube en 2001 et tu prenais un gros coup de batte de baseball clouté dans ta gueule, hein, faut être très clair. Parce que putain, le jeu, il arrache, hein, même encore aujourd'hui. C'est Factor 5, ils avaient quand même... Voilà, ils avaient des couilles en adamantium, et pas qu'un peu. Voilà, donc Star Wars Knight of the Old Republic, moi je ne sais pas quoi en penser, je n'ai jamais fait ces jeux, je sais que c'était des jeux qui étaient disponibles sur Xbox, et peut-être sur PC.
C'est des jeux Star Wars extrêmement populaires, parce que je pense que c'est...
Ouais, sur PC c'est dispo.
C'était... Oui, bon, tu as encore les versions, mais ils vont faire un remake sur PS5 aussi. Mais c'est des jeux qui sont super populaires à l'époque, parce que c'était des RPG de BioWare, à l'époque où BioWare faisait
des RPG.
Faisait encore des bons jeux. Même si je voulais être encore plus méchant, tu vois. Et surtout, ça parle de tout le passé de Star Wars, ça se passe bien avant les films. Donc, à une époque où il y avait encore les Sith, en fait, dans l'univers du jeu. Et c'est un jeu que c'est très apprécié parce que t'as toute une histoire de tomber du côté obscur ou non, enfin, d'être côté obscur ou côté clair. Et je crois que c'est ça aussi que beaucoup de fans de Star Wars ont apprécié, c'est le fait de pouvoir devenir un apprenti Jedi et monter et choisir son côté de la Force. Ce qui donne des fins différentes, qui plus est.
Oui, ça avait l'air relativement... Enfin, c'est un RPG au sens RPG occidental.
Ouais, non, vraiment.
Et très, très ouvert, visiblement, donc c'est quand même intéressant. Alors, on nous demande si Knight of the Old Republic 2 est pas bien. Je n'en sais rien du tout, j'ai jamais joué.
Il paraît que c'est pas ouf, mais j'ai pas joué.
C'est moins bien ou...
Bah, disons que le plus populaire des deux, c'est le premier. Bon, comment faire ça ? C'est comme Deus Ex.
Oui.
Bon, sauf que Deus Ex 2 est réputé vraiment mauvais. KOTOR 2, ça dépend des gens. Il y en a qui trouvent qu'il est très bien. Moi, j'ai fait vraiment que le début du premier assez rapidement. Que je trouvais plutôt cool, mais j'ai jamais dépassé, je pense, les 4-5 heures de jeu.
Ouais. Et du coup, est-ce que ça te tente, là, maintenant qu'il est ressorti sur Switch, d'y rejeter un œil ou est-ce que définitivement non ?
On va regarder le tarif, si c'est une dizaine d'euros, je tenterai peut-être le coup.
Je crois que c'est beaucoup plus cher que ça.
Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, moi je l'ai sur PC, mais sur PC en fait il tourne pas du tout sur des PC actuels. Le jeu est beaucoup trop vieux et la version Steam est pas du tout adaptée. Mais ouais, moi ça faisait partie des choses que je voulais faire, au moins le pousser un peu plus longtemps. Peut-être pas le finir, mais aller un petit peu plus loin, ouais.
Bref, donc voilà, c'était un peu la surprise sortie du chapeau, donc moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, mais après, je ne suis pas suffisamment connaisseur, et puis honnêtement, les RPG, même dans l'univers de Star Wars, c'est quand même difficilement ma tasse de thé. Changement complet, puisqu'on a Dying Light, très compliqué à dire, et Dying Light 2. Les jeux de zombies.
Des jeux de zombies avec des gens qui meurent.
Avec beaucoup de gens qui meurent. Alors, ça a l'air sympatoche. Ce qui est bien, c'est que c'est pas des versions Cloud. En tout cas, Dying Light 2, je ne sais pas. Je crois qu'il y en a un. Le Dying Light, je suis sûr qu'il sort en boîte puisqu'il doit sortir genre fin de ce mois-ci ou quelque chose comme ça. Bref. Moi, je dis pourquoi pas, ça a l'air sympathique. Après, je sais pas trop ce que ça va donner.
C'est pas le genre de jeu qui est pas trop marrant.
Ouais, aux F, moi, les jeux de zombies.
Moi, je sais pas, si c'est bien foutu, si l'histoire est sympa à suivre, pourquoi pas, mais bon, voilà. Triangle Stratégie, qui finalement n'a pas changé de nom et s'appelle maintenant Triangle Stratégie.
C'est vraiment le pire nom qu'ils auraient pu garder. Enfin, moi, je piche pas trop, mais...
Voilà, le jeu où as tout bêta testé, et quand tu as dit « c'est de la merde », ils ont tout corrigé.
Bah ouais, et en plus, ça sort en mars, je crois.
C'est ça.
Chaud patate. Bah ça, je l'avais déjà dit que j'étais chaud patate.
Alors moi, je trouve ça
du coup, c'est la suite spirituelle d'Octopath.
Alors non, c'est pas la suite spirituelle,
c'est plus la suite spirituelle de Tactics Ogre.
Ouais, Fantasy Tactics, ouais, voilà.
Bon, c'est très inspiré. Mais c'est cool parce que autant Octopath, le côté RPG à l'ancienne, ben, ça reste un créneau qui était déjà assez pris, même à l'époque de la sortie d'Octopath. Autant le tactical RPG dans ce style-là, ça fait longtemps qu'on en a pas eu un petit peu ambitieux. Enfin, qui ressemble à Final Fantasy Tactics, ben déjà il n'y en a plus de Final Fantasy Tactics, hein. Le dernier sorti sur DS. Ouais, je crois. Et du coup, c'est cool de voir un jeu dans ce style-là, et avec ce qu'on avait dit la dernière fois avec Mecton, une volonté de faire des choix qui vont influencer ta direction dans le scénario et les personnes que tu vas recruter, j'imagine.
Oui, enfin ça a l'air de... Voilà, j'ai l'impression que les retours les plus négatifs ont été au moins mitigés.
Ouais,
c'est déjà une bonne nouvelle.
Faudra que je revoie ce qu'ils avaient dit, mais globalement, à l'époque, je crois que j'avais dit que mon gros problème c'était la fluidité, genre les chargements à chaque fois que tu lançais un dialogue de 10 secondes, même les combats, ça mettait des plombes à faire tous les mouvements. Apparemment, c'est sur ça qu'ils ont bossé.
Et je pense que c'était nécessaire.
Enfin, bon, je comprends même pas qu'ils s'en soient pas rendu compte avant, parce que ça me paraît assez
Alors,
évident.
Ils s'en sont peut-être rendu compte, mais je rappelle que c'était une espèce de bêta ouverte, donc ils s'en sont peut-être rendu compte, mais simplement c'était pas encore sur le chemin critique pour l'optimisation.
Ouais, j'imagine que l'optimisation ça venait après. Et puis de toute façon, dans ce genre de projet qui passe ta vie, en fait, tu fais plus attention au genre de détails.
Oui, c'est vrai. Donc voilà. En tout cas, c'est un jeu qui est sur les rails et qui est plutôt sympathique. Enfin, moi je trouve que ça peut être une bonne pioche.
Ouais, clairement il y a du potentiel, faudra voir ce que donne le scénario, parce qu'on va pas se mentir, ça va être le nerf de la guerre pour savoir si le jeu tient sur la longueur. Hein.
Clairement.
Et que c'est un peu ma crainte principale actuellement.
Je ne sais pas, ça peut être très bien comme ça peut être très mauvais. Bon, Metroid Dread, on va pas s'étaler dessus, surtout qu'on n'a pas vu, voilà, on parlera dans deux semaines et on n'a pas vu grand chose de plus,
ouais,
si je me rappelle bien.
On s'attendait à avoir beaucoup d'infos et ils ont fait, bon, en fait ça sort vendredi prochain, allez salut.
C'est un peu ça. Après on a eu un nouveau trailer très rigolo, on a appris 2-3 bricoles en plus, enfin il y a eu quelques, mais on a eu pas mal de révélations, c'est quand même le jeu sur lequel il y a une grosse promo depuis,
mois. Ouais, les tests sont sortis aujourd'hui d'ailleurs, si vous les avez pas vus. C'est plutôt positif. Hein.
C'est plutôt très positif, même, j'aurais dit. J'en ai vu un qui était négatif.
En gros, globalement, c'est bon level design, très bon feeling manette en main, les boss sont cool, la DA est pas folle. Et c'est la durée de vie d'un Metroid standard en 2D.
Donc 4-5 heures.
Un peu plus, en vrai, mais...
Oui, probablement, parce que ils ont peut-être un peu plus les moyens. En tout cas, voilà, on a hâte de voir ça, mais on verra ça vendredi. Donc,
c'est ça.
Parce que nous n'avons pas les versions presse sous le nez. En tout cas, pas celle-ci. On a eu quelques versions presse de temps en temps, mais celle-ci, en l'occurrence, on l'a jamais eu. Disco Elysium, The Final Cut. Alors, c'est vous qui allez en parler, parce que moi, je ne connais absolument pas le jeu.
Alors, Disco Elysium...
Et ça a l'air chiant.
Et alors, toi qui aimes pas les dialogues, ouais, ça va te faire chier.
Voilà.
Mais, pour résumer Disco Elysium, ceux qui ne connaissent pas, c'est la petite sensation de la fin de 2019 dans le monde très fermé des RPG à l'occidental. Et en gros, c'est une simulation de détective bourré en pays communiste. C'est un RPG où il n'y a pas de combat, c'est que du dialogue. Et la particularité, c'est qu'en fait, les points de compétence, on va les mettre dans des personnalités de notre personnage, et on va pouvoir l'orienter, que ce soit dans sa psyché, aussi bien sur ses aspects politiques que ses valeurs et compagnie. C'est un jeu qui a été fait, en fait, par des gens qui sont pas du tout du jeu vidéo, mais qui sont des gens qui sont écrivains, et notamment qui sont des grands fans de jeux de rôle. C'est des Estoniens, je crois, en plus. Hein. Genre un pays où tu t'attends pas à voir un jeu arriver.
Oui, je confirme. Je sais pas, c'est estonien, lituanien, lettonien, je sais plus exactement, mais effectivement, ouais. c'est pas un jeu, un pays qui est particulièrement réputé pour avoir des développeurs de ouf. Et les mecs ont lâché une bombe, visiblement. Enfin,
c'est ça, en fait, les gars.
Toute proportion gardée. Hein.
En gros, ils ont recruté des gens qui savaient développer des jeux, et ils ont monté leur truc. Et c'est un projet qui est très populaire, effectivement. Alors, c'est un jeu qui est politique, je suis désolé de vous le dire. Hein. Je sais que pas de politique dans les jeux vidéo, mais il faut en parler.
Ah non, les politiques dans les jeux vidéo, on y va, hein. Pas de problème.
C'est ça. Et mais c'est très très bien réputé, en tout cas, sur le côté écriture, c'est bien rythmé, l'enquête est intéressante, les personnages sont marrants. Et moi, j'attendais que le jeu sorte sur Switch depuis un bon moment. 2 ans maintenant, en fait. Donc je suis très content qu'il sorte enfin la semaine prochaine. Avoir le portage. C'est le seul truc qui m'inquiète, c'est la taille des polices sur la console, en portable.
Ouais, il y a peut-être un petit boulot d'ergonomie là-dessus.
J'attends légèrement les retours avant de me le prendre. Je le prendrai pas les yeux fermés.
On a eu Castlevania Advance Collection, alors qu'il y a une petite particularité. Donc nous avons tous les jeux GBA.
Plus
Castlevania.
Vampire Kiss.
Plus Vampire's Kiss. Alors Vampire's Kiss, c'était le nom européen aux États-Unis, c'est Castlevania Dracula X, qui en fait est un portage de Rondo of Blood, qui était un jeu TurboGrafx, donc pas du tout compliqué. Et j'ai pas compris, en fait, pourquoi est-ce qu'on se récupérait ce jeu-là.
Et pas Symphony of the Night.
Alors Symphony of the Night...
Bah, en fait, dans une compilation de Metroidvania, enfin, des trois Metroid qui ont suivi Symphony of... Enfin, des trois Metroid. Pardon. Des trois Castlevania qui ont suivi Symphony of the Night...
Ça aurait été intéressant d'avoir Symphony of the Night.
D'avoir un petit peu l'original qui a mis en place tout
alors,
ça.
Alors, sauf qu'il y a eu un Castlevania Collection... Il y a un an, qui contenait Symphony of the Night.
Alors, il y a eu trois collections Castlevania jusqu'à présent.
Oula.
T'as eu donc celle qu'on a eue sur Switch, qui ne contient que les jeux plateforme sortis sur NES, Super NES, et peut-être l'épisode Mega Drive, je ne suis pas sûr.
Je crois qu'il y a l'épisode Mega Drive, parce que ce serait étonnant.
Et donc, pas Dracula X.
Et donc, voilà, pas Rondo of Blood et pas Symphony of the Night.
Et Symphony of the Night et Rondo of Blood, c'est Castlevania Memories, qui n'est sorti que sur PS4, je crois. C'est un vrai gâchis, non hein. Les deux jeux suivent, donc ils sont toujours associés ensemble, ça c'est pas déconnant. Et du coup, on a encore d'autres jeux dans l'Advance.
Alors moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Dracula X n'était pas présent dans la première compil Castlevania dans lequel il y avait les jeux NES et Super NES, parce que finalement, il aurait pas détonné.
Bah, ça aurait même été logique en fait. Après, je sais que c'est un jeu qui est pas populaire, mais.
Bah, en fait, c'est pas qu'il est pas mauvais du tout le jeu, hein. Il marche même plutôt bien. Je veux dire, pour un jeu Super NES, il marche très bien. Maintenant, c'est pas fondamentalement la meilleure version de ce jeu.
Bah, il souffre de la comparaison avec la version PC Engine. Hein.
Voilà, alors que pourtant, c'est. Enfin, au final, il a pas grand chose à voir avec la version PC Engine en fait. Hein. On dit que c'est un portage, mais en vrai. Il porte le même titre au Japon, mais c'est à peu près tout. Globalement, le jeu, il a pas grand chose à voir, hein. Vraiment. Je veux dire, essayer de le refaire, les niveaux n'ont pas grand chose à voir, ni graphiquement, ni en termes de design, ni en termes de level design, enfin bref. Je comprends pas la logique. Alors après, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même tous les jeux GBA.
Ouais,
dont le.
J'espère que vous aimez appuyer sur Select pour ouvrir la carte.
Alors oui, ça malheureusement, c'était le gros avantage des versions DS où tu avais la carte sur le deuxième écran. Et honnêtement, sur un Castlevania, bah, ça apportait vraiment quelque chose.
Ah bah, pour avoir. J'ai fait d'abord les épisodes DS et après, je suis revenu sur des épisodes GBA bah, via le port de la DS. C'était rude, hein. Devoir appuyer sur Select pour ouvrir la carte en permanence, c'était relou, hein.
Oui. Après, ça t'oblige aussi à mémoriser un peu plus les lieux. Faut quand même. Bon. Ça.
Ouais.
Voilà, si ça vous intéresse, nous avons un article de notre série Les Archives de Cranky qui reprend justement les trois Castlevania GBA et dans lequel je disais que bah, Circle of the Moon est bien, même très bien. En fait, c'est un bon jeu, il n'y a aucun souci. Le deuxième qui s'appelle je sais plus quoi.
Harmony of Dissonance, non ?
Harmony of Dissonance, c'est quand même un peu de la merde.
Ouais.
Il est quand même clairement pas foufou des fesses. Avec un twist que tu vois arriver à...
Il y avait une histoire ?
Oui.
Ouais, c'est parce que ça me semblait.
Voilà, c'est un peu ça. Autant sur Call of the Moon, tu sens que monsieur qui va t'aider, c'est un traîtreux. Parce qu'il est blond. Voilà, on va être clair. Voilà, donc Harmony of Dissonance, c'était quand même pas foufou. Et Aria of Sorrow est un excellent jeu.
Oui. Avec un twist que tu vois venir aussi, mais...
Avec un twist que tu vois un peu venir à 5 km aussi, mais qui en fait bénéficie d'ailleurs de plusieurs fins avec un boss caché et tout. Enfin, il y a vraiment du taf, je trouve, sur Aria of Sorrow.
C'est celui où quand tu tues les ennemis, tu peux récupérer leurs armes qui te servent d'armes.
Exactement.
Ça,
et c'est cool. Alors, il a juste un seul défaut. Je ne sais pas si ça a été corrigé, mais j'ai appris de manière tout à fait fortuite qu'il y avait un gros bug dans le code du jeu. T'as une stat de chance qui, théoriquement, devrait te permettre d'avoir des drops d'âmes, justement, plus souvent. Et en fait, les drops d'âmes sont calculés... T'as genre une chance plus... Une chance sur 136... Plus une chance, enfin je sais, enfin ta stat de chance, donc genre c'est 10, 12, 14, 15, c'est un truc comme ça, c'est un truc entre 1 et 20, divisé par 1214, un truc comme ça, enfin, tu vois, c'est le truc complètement délirant dans lequel en fait la stat de chance elle t'augmente de 0,01% réellement la chance d'avoir un drop. Donc, je sais pas si ça aurait été corrigé pour ces versions là. Mais bref, ce serait intéressant un jour de pouvoir faire un vrai run chance, parce que je sais que dans Circle of the Moon, tu peux vraiment faire un run luck, où si tu fais monter ton truc chance, bah, t'as plus de chances de faire des esquives, t'as plus de chances d'avoir des drops, hein. C'est vraiment assez rigolo à faire en fait. Voilà, je me rappelle aussi d'un bug merveilleux sur la version Circle of the Moon que moi j'avais exploité pour un des boss où j'arrivais pas à m'en sortir, où en fait tu peux arriver à faire un combo de cartes monstrueux, simplement en lançant une carte, en mettant à pause au bon moment et en changeant de carte à ce moment-là. Bref, voilà, il y a plein de petits bugs rigolos à exploiter dans ces jeux-là en plus. Je sais pas si on les retrouvera à l'identique, je sais pas s'il y a des choses qui auraient été corrigées, mais en tout cas voilà.
Bon, connaissant Konami, je pense que c'est minimum syndical.
Apparemment, il y a quand même du replay, il y a quand même les options qu'on a l'habitude de voir sur des jeux émulés correctement.
Il y a le rewind et c'est pas plus mal, parce que c'est pas des jeux qui sont très simples en fait.
Alors, Dracula X est clairement un jeu difficile, pas infaisable. Mais difficile, moi je sais que je l'ai pas fini parce que Dracula en slip de bain à la fin, j'y arrivais pas. C'est vraiment très dur.
Ça donne une image.
Bah en même temps, c'est la réalité. L'ensemble du jeu est ça ressemble beaucoup aux versions NES en fait. C'est-à-dire, c'est un jeu assez rigide et qui est vraiment vraiment difficile. Et voilà, c'est pas évident du tout. Sur les versions GBA, honnêtement, c'est déjà plus discutable parce que je trouve que Circle of the Moon est peut-être un poil plus ardu que les autres. Mais Aria of Sorrow, ça se finit quand même bien. Une fois que t'as les pouvoirs, genre passer au travers des ennemis et des trucs comme ça, t'es quand même assez peinard. À la fin, t'es quand même. Dans Aria of Sorrow, je crois que ça doit être le plus ouf là-dessus. T'es quand même. T'as une puissance de frappe qui est juste hallucinante, quoi. Tu passes à travers les ennemis, tu leur fais des dégâts quand tu les touches, enfin c'est vraiment...
Ah, c'est le petit plaisir des Castlevania de l'époque où tu pouvais quand même être bien pété.
Ouais, c'est ça. C'est quand tu te débrouilles bien, t'as une arme bien pétée, t'as des pouvoirs bien pétés et tu passes à travers tout, quoi. Et ça fait plaisir. On a eu un Shadowrun Collection aussi.
Non, faut pas trop m'en demander.
Voilà. Deltarune, alors Deltarune, si j'ai bien compris, c'est la plus ou moins suite de...
C'est le nouveau jeu du mec de Undertale. Bah, d'ailleurs, Deltarune, voilà. C'est un... Comment on dit quand tu changes toutes les lettres et ça donne un autre mot ?
Un anagramme.
Un anagramme de Undertale.
Ah, j'avais pas vu.
Donc on avait déjà eu le chapitre 1 il y a 2 ans, je crois. Et le chapitre 2 était sorti... mi-septembre, et le mec il l'avait annoncé du jour au lendemain quasiment. Genre, il y a le chapitre 2 qui est dispo, apparemment c'était genre quand même 6-7 heures assez consistantes. Et du coup, pendant le direct, on a appris que ce chapitre 2 serait disponible sur Switch aussi en mettant à jour l'application de Deltarune. J'avais fait le premier chapitre de Deltarune, je crois que je l'ai pas fini. C'était plutôt chouette. Bon, je pense que si vous aimez Undertale, je ne veux pas vous dire ça, sert à rien que je vous dise des jeux, vous avez sûrement déjà dessus, mais...
C'est un peu ça. Donc, voilà. Et on a eu la semi-bonne surprise de voir un Actraiser...
Actraiser Renaissance.
Voilà, Actraiser, c'est un... Pour ceux qui ne connaissent pas, mais je doute que les gens ne connaissent pas Actraiser maintenant, parce que c'est quand même... Donc, c'est une musique composée par Yuzo Koshiro, déjà, pour commencer.
Et je crois que, d'ailleurs, sur ce remake, les musiques ont été refaites.
Alors, il y a des musiques originales, et il y a des musiques réorchestrées, et il y a des morceaux inédits, et les morceaux inédits, ils ont été faire l'effort de les recomposer sur Super NES, en plus de la version orchestrale.
Sympa.
Ça fait quand même plaisir. Le vrai problème de Actraiser Renaissance, c'est
C'est que
que
c'est
c'est
moche.
absolument mochissime.
On dirait un jeu mobile, du
On
coup.
dirait un jeu mobile, ouais. Et autant, je trouve que c'est... Alors, Actraiser, c'est particulier parce que tu as des phases de plateforme, donc, où tu incarnes... Alors, en français, c'était... Le maître, je crois, parce qu'il fallait surtout pas de référence religieuse chez Nintendo of America, donc du
Ah
coup en
oui.
Occident de manière générale, donc c'était le maître, c'était pas Dieu. Au Japon, c'est Dieu, hein, on te le dit clairement.
Oh, ils font toujours attention, il suffit de voir la traduction de Xenoblade 2 où tu te références, où le mec qu'ils appellent l'architecte, en fait c'est Dieu en version japonaise. Mais littéralement il l'appelle Dieu. Hein.
Ouais, non, mais c'est voilà, un truc comme ça, au moins c'est fait. Voilà, donc c'est. Tu as ces phases de plateforme qui sont assez ardues et qui sont vraiment sympathiques parce que très bien équilibrées et vraiment, vraiment sympathiques à jouer. Et ensuite, tu as des formes, des phases de city building, en fait, qui sont alors des phases assez simplifiées de city building, où ça consiste essentiellement à utiliser quelques pouvoirs pour dégager un peu le terrain, produire de l'eau, enfin se débrouiller pour avoir ce qui va bien, là où ça va bien et tout ça, et faire que tes petits citoyens peuvent se développer et tout ça, et en fonction du taux de développement de la ville, bah tu vas avoir une deuxième phase de plateforme action qui va généralement être plus difficile, mais où les habitants vont apporter des pouvoirs et des machins et de la magie et tout, donc c'est quand même assez sympa d'avoir mélangé les deux. Alors encore une fois, c'est pas un excellent jeu de plateforme action, c'est pas un excellent city builder, c'est plus un mélange, une espèce d'alchimie entre les deux qui marchait très bien.
C'est un
en
jeu quintette en plus.
Et c'est un jeu quintette.
Bah, c'est clair que pour la Super Nintendo en 91, donc quasiment la sortie de la console, c'est
oui.
assez exceptionnel. Hein.
C'était assez innovant et vraiment ça marche bien. Et c'est, en fait, c'est assez surprenant de voir le flow du jeu Super NES. C'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel on se dit au départ, bah ouais, ok, le plateforme action c'est sympa mais pas ouf. Ouais, ok, le city building il est pas ouf. Et en fait, tu te fais vraiment happer par le jeu et tu as envie de continuer, tu as envie d'aller plus loin. Et je sais pas, il y a une espèce de oui, je te dis, de magie qui commence à opérer au bout d'un moment, qui fait que tu te fais vraiment aspirer par le truc et tu vois pas les heures passer et tu joues avec Treasure et t'es bien, quoi. C'est sympa, ça se fait bien.
Moi,
quand tu commences un peu.
Je vais poser la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça annoncerait pas un remaster de la trilogie Quintet?
Je ne pense pas.
Non.
Et si c'est pour que ce soit de cette qualité-là, j'ai pas envie.
Surtout Terranigma, ce serait moche. Hein.
Ouais, alors là, voilà, le gros problème d'Actraiser Renaissance, c'est que c'est méga moche, quoi. On dirait vraiment un jeu mobile et pas un beau jeu mobile.
Et puis, Actraiser a une aura, une popularité que n'ont pas les autres jeux, j'ai l'impression, en termes de popularité en général.
Oui, et puis en plus, t'as... Enfin bon, Actraiser est un jeu qui est légendaire parce qu'il a une BO légendaire aussi. Enfin,
avec Yusuke Shiro. Hein,
voilà, tu peux pas tester. Bon, donc j'ai un peu l'impression que le jeu, ça devait être un jeu mobile à l'origine et que finalement ils ont décidé de le porter sur console, mais ils ont fait l'effort minimum pour le porter sur console.
Ce qui est dommage.
Bon, après, c'est pas le premier jeu Switch qui a un portage mobile foireux, quoi.
Oui, bon. Final
voilà.
Fantasy XV Pocket Edition, tu penses?
Les partages Dragon Quest. Mais d'ailleurs, bon, je sais pas si... Petite parenthèse, mais en parlant de remake, t'as Square Enix qui a fait les Final Fantasy Pixel Remaster là, sur mobile et PC. Ils ont refait les bandes-sons, entre autres, en plus des visuels. Et j'aimerais trop qu'ils les sortent sur Switch. J'ai une excuse pour refaire le 6.
Ah, je comprends. Voilà, donc on va se faire une deuxième petite pause musicale. On va s'écouter de nouveau un morceau de la bande originale de Darksiders 3. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Toujours composé par Chris Velasco. Le morceau s'appelle Requiem Aeternam. Ça dure tout petit peu plus de 2 minutes. Et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour.
Tour !
Nous allons donc finir sur ce Nintendo Direct avec les 5 gros morceaux qui restent. Alors,
6.
Non.
Jusqu'au bout avec ça.
Non. Non, on ne parlera pas de ça. Je refuse. C'est con qu'on n'ait pas Mecton. Mais on avait Monster Hunter Rise Sunbreak.
Après, on n'a pas vu grand-chose.
On n'a pas vu grand-chose. Donc, c'est le prochain DLC de Monster Hunter Rise, qui était le jeu qui a bien marché, Monster Hunter, sur Switch. Qui est pour l'été prochain, donc c'est dans longtemps en plus, quoi. C'est quasiment l'année prochaine, quoi. C'est quasiment dans un an. Donc
ouais.
C'est quand même,
Ouais, bah, sachant qu'avant, ils sortent la version PC.
Oui. Donc, c'est pas.
Mecton, il a dit à voir.
Voilà, je pense qu'on va pas vraiment s'étaler plus dessus, malheureusement, parce que je crois qu'à part Mecton, personne n'a fait du Monster Hunter Rise ici.
C'est ça.
Alors, en tout cas, c'était ça qui a fait l'ouverture, donc c'était quand même assez surprenant, parce que c'est...
Oh, c'est quand même... Monster Hunter, c'est un bon partenariat pour Nintendo. Hein.
Oui, oui, complètement.
En Occident, c'est eux qui les poussent. Hein.
Clairement. On a eu ensuite Kirby and the Forgotten World.
Ou The Last of Kirby.
The Last, voilà, et on nous a proposé Fallout Dreamland.
C'est pas mal aussi.
Qui est, mine de rien, le premier Kirby en 3D de l'histoire.
En déplacement en 3D.
Déplacement en 3D.
Oui, parce que Kirby 64 était en 3D.
Oui, mais t'étais toujours sur un plan.
Ce qu'aurait dû être le Kirby GameCube, je crois.
Alors, Kirby Air Ride.
Eh, c'est un bon jeu Kirby Air Ride, mec.
C'est un très bon jeu Kirby Air Ride, mais c'est quand même un one button game, quoi.
Mais c'est un bon one button game.
Mais qui est très très fun d'ailleurs. On en parlera dans un mois, rassurez-vous. Tiens, dans un mois, on va faire une émission fleuve sur la GameCube, ça va être horrible.
Moi, je pense qu'on va faire deux parties, hein, ça continue.
Je sais pas comment on
va faire. Mais moi, je suis. Alors, c'est sûr de se faire une idée de comment se va dérouler le jeu avec ce qu'on a vu, mais je suis assez curieux de voir ce qu'ils veulent en faire. Et surtout, je me pose la question, est-ce que ça va être un jeu de plateforme? Est-ce que ça va être plus un jeu d'aventure avec une forme d'ouverture? Bah, sachant que Kirby a déjà fait des... pas que de la plateforme, mais il y a déjà eu un Metroidvania Kirby qui était The Amazing Mirror sur GBA de mémoire. Donc est-ce qu'ils vont sortir un peu de la formule habituelle et faire un Kirby un peu différent, ou est-ce que ça va être de la plateforme, mais en se déplaçant comme dans Crash Bandicoot?
Ça Alors... va être Kirby Air Ride 2.
Ah, si seulement.
Ça pourrait.
Et surtout, ouais. Est-ce qu'ils vont réussir à le sortir avant qu'on change de console? Parce que les Kirby sont un peu maudits quand même.
Ouais, un peu, mais moi j'ai l'impression, de ce qu'on en a vu, ça ressemblait beaucoup à un Mario Odyssey. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le moteur de Mario Odyssey. Il y a plusieurs personnes qui ont fait la remarque en disant c'est marrant. T'as la caméra qui se comporte un peu pareil, t'as des textures et des aplats de couleurs qui se ressemblent beaucoup, t'as quelques effets, genre les effets de... Je disparais pour pas masquer la caméra qui ressemble beaucoup. Enfin bon, c'est vrai que c'est.
C'est possible, hein. Ah, ce serait pas des proches collaborateurs de Nintendo. Hein.
Et j'ai effectivement l'impression qu'on va avoir une espèce de plateforme exploration en 3D. Alors est-ce que ça va ressembler à un collectathon façon Mario 64? Pourquoi pas. Pour Kirby, ce serait un peu nouveau aussi, parce que Kirby, c'est vrai qu'on a plus l'habitude des niveaux un petit peu linéaires. Avec éventuellement quelques passages secrets, quelques trucs à trouver, et surtout des pouvoirs rigolos à exploiter, et puis une ambiance un peu sympa, mais parfois très sombre. On se rend compte toujours de la face sombre de Kirby, donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Et puis c'est vrai que ce serait quand même... je pense que ce serait une bonne chose que Kirby se renouvelle un peu, mais je suis toujours très content tous les 4-5 ans d'avoir un jeu Kirby en 2D super sympa avec un gimmick un peu à la con, et ça me fait marrer, et puis ça me va très bien. Mais les voir explorer quelque chose d'un peu différent, je serais assez pour aussi.
Bon, surtout que le dernier, je sais plus comment il s'appelait, Star Allies.
Ouais, bon, c'était
démo,
pas mal.
La démo, elle m'avait ennuyé au possible. Hein.
Bah, au final, le jeu, il était plutôt sympa. C'est dommage, parce que le jeu était vraiment, vraiment sympa. Après, ça reste un Kirby, hein, je veux dire, faut... Tu mets, faut pas que tu joues de plus de 2 heures d'affilée dessus, quoi. C'est tu comme une pause entre deux parties de Doom.
Oui, tu l'as fini en 2 heures aussi de toute façon.
Non, c'est un peu plus que ça, mais voilà. Mais c'était très inspiré de Kirby's Adventure sur Wii, qui était très sympa parce qu'il se jouait à 4, et finalement là c'était un peu le même principe. C'est-à-dire qu'en fait tout seul tu te faisais un peu chier, mais quand t'étais à 4 tu te marrais bien. Voilà. Surtout avec des gens qui ne savent pas jouer, en fait là c'est encore plus gros.
Bah Kirby c'est quand même très pratique quand tu.
Ouais.
Il n'y a jamais joué aux jeux vidéo. Non, c'était mon premier.
Eh ben moi, c'était pas mon premier, mais c'est un des jeux qui m'avait beaucoup marqué sur NES. D'ailleurs, j'ai toujours la cartouche d'origine avec la boîte d'origine. Juste là-bas. Ça me fait très plaisir. On a eu la nouvelle de... Ah bah oui, finalement, il va y avoir un N64 Online.
Mais ce sera en plus.
Mais il va falloir raquer les kikis.
Allez, envoie, file l'argent.
Alors, pour la vraie information, donc, tu auras un abonnement Nintendo Switch Online qui te permettra d'accéder au NES Online et au Super NES Online exactement comme aujourd'hui. Mais si tu veux accéder au N64 Online, il faudra rajouter un petit peu de thune au bout. Je ne sais pas si c'est Nintendo qui teste le marché en mode est-ce que les gens veulent vraiment de la N64 ou est-ce qu'ils voulaient l'avoir pour faire chier le monde? Ou est-ce qu'ils sont vraiment prêts à payer pour l'avoir parce que ça les intéresse?
Alors, moi, il y a aussi un truc, et là, qui me fait penser à ce qu'ils ont fait sur mobile, avec notamment Mario Kart Tour et Fire Emblem Heroes, de rajouter des abonnements supplémentaires dans leur free-to-play pour des trucs en plus. Et pas des trucs vraiment. Pas des DLC, c'est vraiment juste des fonctionnalités ou des options en plus, et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, quoi. Et si vraiment l'option, le pack additionnel c'est que la 64 et la Mega Drive, parce qu'il y a elle aussi.
Ah non, ah non, non. Ah non, non, il n'y a pas la Mega Drive. Hein.
Putain, mais c'est délire absolu quoi. Bah ça
J'ai
va être.
l'impression qu'on a éludé une console de l'histoire, c'est complètement
Non,
fou.
bah surtout qu'en plus la 64, avec tout l'amour que j'ai pour cette console, il n'y a pas tant de jeux de ça en fait qui vont valoir le coup. Et
Là,
c'est
il va
un.
y avoir les jeux horaires.
Voilà, c'est déjà un miracle les jeux de rare en vrai. Il n'y aurait pas eu les jeux de rare, je peux te dire qu'on se réfléchit.
Non, non, ils vont pas y aller, ils ont pas annoncé, si.
Si, il y avait un Banjo-Kazooie dans la présentation. Ah, quand même, quoi.
Quand même. Après, c'est pas celui qu'on a envie de voir. Enfin, moi, personnellement, c'est pas celui que j'aurais bien envie de voir, un
Peut-être
Perfect
que vous... Ouais,
Dark,
voilà, c'est ce que
par
j'allais
exemple.
dire.
Ce serait quand même beaucoup plus intéressant. Parce que, un jour, il faudra qu'on parle de Rareware, il faudra qu'on fasse une vraie émission consacrée à Rareware pour savoir exactement quand est-ce que c'est parti en
On en
couille.
a déjà fait une, je crois,
On en a
avec
déjà fait
Sierra.
une, mais je ne suis pas certain qu'on ait vraiment, vraiment déterminé quand est-ce que c'est
Alors,
parti en couille.
moi je pense que tu peux chercher aux alentours de DK64.
C'est un peu ça. Bref, donc il y a, en fait, sur N64, il y a quelques bons jeux, il y a quelques très 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 bons jeux, c'est-à-dire effectivement que tu t'attends d'avoir Super Mario 64, Ocarina of Time, Majora's Mask, bon, tout le monde s'attend à voir ça, Mario Kart 64, même si je trouve que Diddy Kong Racing, dans l'occurrence, était un
Ouais,
poil mieux.
mais en fait, le truc, c'est que je me dis, ok, tu vas peut-être payer 10 balles de plus pour avoir de la 64 et de la Mega Drive, mais effectivement, qu'est-ce qu'ils vont ajouter par la suite comme jeu sur ces consoles-là?
C'est un peu ça, c'est-à-dire que tu
Alors,
vas
autant
avoir 8 jeux au
Mega
lancement.
Drive aussi, mais
Sanic!
64.
Bah, N64, en fait, ils ont quand même déterré Operation Winback, ce qui est intéressant. Alors, Operation Winback, si vous connaissez pas, c'est le premier jeu vidéo de l'histoire en 3D à avoir un vrai cover system. Donc quand même, un peu de respect. C'est pas un mauvais jeu du tout, hein. La sélection est sympathique. Il y a 8 jeux, je crois, au lancement. Donc il y a effectivement les très grands classiques auxquels tout le monde s'attendait,
Les
plus
jeux
2-3 bricoles.
qu'ils ont montré sur la présentation, c'était Mario 64, Mario Kart 64, Lylat Wars, Yoshi's Story, Zelda Ocarina of Time, Dr. Mario, Mario Tennis, Opération Wing Back et Sin and Punishment.
Donc t'as quand même des jeux. C'est quand même des grands classiques de la machine. Le problème, c'est que les vrais grands classiques de la machine, t'en as peut-être une vingtaine sur une librairie de 300 jeux, et après, dès que tu es sorti de cette vingtaine, on va dire peut-être, allez, une trentaine de jeux si on est un petit peu généreux.
Ouais, une vingtaine, dont certains qui sont des Rareware, qu'on n'aura pas,
C'est ça
dont
qu'on n'aura pas.
007 et
Ah,
Perfect
007,
Dark.
c'est sûr qu'on l'aura
Ah,
pas, parce qu'il y a
007, c'est
tellement de problèmes de
sûr qu'on l'aura pas.
licence.
Ça, c'est sûr, certains on l'aura pas, sauf si par miracle tout le monde arrive à se mettre d'accord,
Ah,
mais.
attends,
Non,
il va
non, ça
être.
arrivera pas parce que ceux qui ont la licence James Bond, ils en ont rien à foutre de leur sortir, ils veulent pas. Pour eux, c'est du passé, c'est fini.
Et puis en plus, t'as un micmac énorme parce qu'il faudrait avoir les. Non seulement il faudrait avoir l'accord de ceux qui ont la licence, il faudrait avoir l'accord du studio qui a la licence du film, il faudrait avoir l'accord de tous les acteurs dont l'apparence a été.
Des personnes qui ont la licence James Bond dans le jeu vidéo aussi.
Des personnes qui ont la licence James Bond dans le jeu vidéo, évidemment, mais il faudrait avoir l'accord de tous les acteurs qui ont joué dans ce film et dont l'apparence est tellement réaliste sur N64 qu'on les reconnaît au premier coup d'œil. Donc c'est très compliqué. Voilà. Non mais voilà, c'est en vrai sur N64, t'as une librairie de ouais 300 350 jeux, t'en as peut-être 10% qui sont des vraiment très des classiques de la machine et encore si tu voulais vraiment faire une liste curated, on va dire, c'est-à-dire vraiment tu passes à la paille de fer, t'as peut-être une vingtaine de très grands classiques de la N64 qui ont vraiment défini cette machine, qui sont hyper emblématiques et qui sont encore des jeux très agréables à jouer aujourd'hui.
Et pour certains qui sont des jeux qui ont défini ce que c'était d'un jeu en 3D, et
exactement.
Éventuellement à Mario 64 et Ocarina of Time.
Exactement, voilà, après t'as peut-être allez, une grosse centaine de jeux qui valent le coup éventuellement d'être joués si t'es fan de la machine ou si t'aimes bien cette époque-là. Mais je pense que pour la plupart des gens aujourd'hui en 2021,
c'est un peu mal vieilli.
Ça va être rude.
Ça va être très rude. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai rejoué récemment à Castlevania Legacy of Darkness, qui est considéré comme une sombre merde par tout le monde.
C'est celui de la 64, ça ?
C'est le deuxième sur N64. C'est celui qui est une espèce de spin-off du premier.
Et Curse of Darkness aussi, non ?
Non, Curse of Darkness c'est sur PS2.
Oh putain, faut chier avec le nom.
Eh ben oui. Donc tu as
Castlevania 64 tout court, ça.
T'as Castlevania 64 et en fait tu as sa suite directe qui est Legacy of Darkness qui en fait est reprend les mêmes décors, la plupart des mêmes énigmes, il y a quelques niveaux inédits, mais voilà, reprend le même genre de gameplay et te raconte une histoire un petit peu différente, sympathique petit spin-off. En vrai, le jeu il est pas si mauvais que ça. C'est-à-dire, moi, tout le monde m'a dit c'est une bouse ignoble et tout, et en vrai, non, c'est pas vrai. C'est pas un
est-ce qu'il y a des squelettes à moto comme dans Castlevania 64 ?
Il y a des squelettes à moto. Faut bien recycler les assets, ouais. Mais en fait, le jeu, il est vraiment pas si mauvais que ça, quoi. Ça, il a une réputation de merde. Le problème, c'est qu'il est sorti en 99, et que pour un jeu de 99, bah, quand t'as eu Ocarina of Time un peu avant, quand t'as eu Mario 64 un peu avant, bah, il est un peu raide, quoi. Voilà. Et il fait partie des jeux d'ailleurs victimes de la N64 où il n'y avait pas assez de boutons, c'est-à-dire qu'en fait tu peux contrôler la caméra. Moi, au départ tout le monde m'avait dit « Eh, la caméra c'est vraiment de la merde dans Castlevania, on peut pas la contrôler ». En fait si, tu peux la contrôler, avec la croix.
Ah oui.
Mais c'est que des conneries comme ça en fait, c'est un jeu qui est pas mauvais, c'est un jeu qui malheureusement a eu un développement compliqué, et le résultat il est, ben... Voilà, il est un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que c'est pas un jeu de toute première génération N64 où c'est tout un tas de défauts qu'on aurait pu pardonner. C'est un jeu de fin de vie, mais on va dire de...
Milieu
de cycle de vie, encore en 99, ça commençait quand même à sortir la sapinette. Et du coup, il s'est fait descendre par tout le monde juste pour ça, et quand il rejoue aujourd'hui, honnêtement, si t'es capable de faire un tout petit peu abstraction de certains petits défauts, bah, en fait, c'est Castlevania, mais en 3D. Il y a des phases de plateforme un peu crispantes, il y a des ennemis un peu partout, il y a une ambiance un peu horrifique, il y a des musiques un peu sympas. Voilà, t'as beaucoup plus d'ailleurs de phases action plateforme sur la fin du jeu que sur le début, mais qui va mettre ça sur la N64 Online et être content ? Personne. Il y a des gens comme moi qui sont éventuellement contents d'y rejouer en se disant finalement c'était pas si mal que ça, mais qui ça va contenter, quoi ? Donc, je comprends pas quel public va être touché par ce N64 Online.
Bonne question, des gros nostalgiques. La 64, c'est une console populaire aux États-Unis. Hein. Alors, ils veulent rajouter des modes en ligne pour certains jeux.
Ce qui pourrait être une bonne idée.
Sur la 64, ça pourrait être drôle.
Et sur F-Zero, ça pourrait être très marrant sur F-Zero X. Je sais pas s'il y est, je crois pas.
Si, il est prévu.
Et ça, un éliminateur en ligne sur F-Zero X, par exemple, ça pourrait être marrant.
Ouais, s'il y a des vraies modifications de jeux pour faire du truc en ligne, ça peut vraiment être intéressant.
Il faudrait jouer à 40 F-Zero X.
À 30, monsieur, 30.
À 30. À 30.
Ah, c'était le premier vrai Battle Royale, en fait.
Ouais, mais c'était avec l'ordi. Hein.
Oui. C'était avec l'ordi et puis avec des règles un peu raides.
Puisqu'on parle de... Tu parlais de la manette N64. Ils vont la commercialiser en version sans fil.
Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle aussi.
Alors, oui et non.
Parce que quand tu vois le prix, t'as mal.
Oui, et quand tu vois le stick, tu as mal. Parce que le stick de la 64, c'est quand même une sacrée merde.
Alors, je ne sais pas s'ils vont réviser ça ou pas.
Alors, sur la photo, c'est la petite tige comme avant.
Alors, la question, c'est est-ce qu'ils vont changer de techno derrière ? Parce qu'en fait, alors, le stick de la N64, c'était de la merde parce que, en fait, il est tout en plastique dedans, le stick.
C'est fantastique.
Exactement.
Et ça frotte et ça s'use.
Et ça frotte et ça s'use et ça fait plein d'espèces de poussière et du coup, au bout d'un moment, tu t'en sors pas. Alors, si c'est la même mécanique, c'est de la merde. Par contre, si par hasard, à l'intérieur, ils ont juste. Au lieu d'avoir du plastique, ils ont par exemple, je sais pas, du métal ou du plastique très 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 dur, ça passera très bien. Je connais un projet N64 qui remplaçait les sticks par des sticks en téflon. Donc le truc increvable. Et en fait, ça marche super bien. Donc Moi, je demande à voir. Moi, ce qui m'a surtout choqué, c'est le prix. C'est 50$, je crois, donc 50€ a priori.
50€, oui.
Pour une manette N64 sans fil, je trouve que c'est raide. Surtout quand tu vois que les manettes de Super NES avaient été vendues, je crois, 40€ la paire, et que les manettes de NES, ça devait être le même prix, genre 40, 30 ou 40€ la paire.
Ouais, c'est pareil pour la manette de Mega Drive, la console dont on va parler.
Attends, quoi Ah, tu parles des nouvelles, là, les manettes sans fil? Parce que la manette de SNES, ils la vendent à l'unité, hein.
Ah, c'est les manettes de NES qui sont vendues en couple?
Ouais, qui se fixent sur le contenu de la Switch, et c'est ridicule.
Oui, mais c'est bien, ça.
Oh, non, c'est de la merde.
Carrément.
Bref. La Mega Drive, OZEF, hein.
Alors, du coup...
En plus, la manette, elle a 3 boutons.
Oui, c'est ça, alors ça met 3 boutons, ça c'est ridicule.
Alors
celle qui est vendue au Japon, elle en a 6.
Oui, non, c'est fait niquer.
Ils s'en battent un peu les couilles, quoi.
En Europe, on s'est fait niquer, on avait la version 3 boutons.
Non, mais franchement.
Mais attends, moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'ils mettent pas la version 6 boutons pour les États-Unis.
Ouais.
C'est là où la Mega Drive a le plus de succès.
C'est là où la Mega. C'est le seul territoire où la Mega Drive a marché.
Ouais, l'Europe, ça a bien marché, quand même.
Enfin, ça dépend, si prendre une fessée, deux consoles pour une, ça s'appelle ça bien marché.
Bah, par rapport à la Master System.
La Master System a mieux marché en Europe que la NES. Hein.
Sérieux?
Ouais.
Non, c'est honteux.
T'as mal au cul, hein.
Pas grave.
Alors, je précise quand même que, comme à chaque fois, le gros problème des compilations Mega Drive, c'est qu'il y a des jeux Mega Drive dedans.
Je crois qu'on en parlait pas.
Bon, allez, on passe à autre chose. Splatoon 3.
Si, juste pour terminer allez, sur cette histoire, ce sera disponible à partir d'octobre, mais on n'a pas encore les détails.
Voilà, et on n'a pas encore le prix d'ailleurs.
Et on ne sait pas s'il y aura d'autres trucs. Il pourrait y avoir d'autres.
Du coup, ce sera le 30 octobre.
Là, ils vont nous sortir la GameCube et tout le monde va raquer.
Et tout le monde va raquer, même moi je vais
raquer.
Ça fait chier, mais même moi je raquerai. Alors que pourtant, les jeux GameCube, j'en ai à côté, hein, j'ai vraiment pas besoin. Hein.
Moi, si, j'en ai
mais
pas à côté.
Pour jouer à des jeux GameCube sur un écran OLED.
Voilà, et en plus, si tu pouvais jouer en ligne.
Ah putain, mais. Ah non, F-Zero GX, ça marchera pas parce que t'auras pas les aérofreins analogiques.
Super Smash Bros, je peux aller en ligne. Ah non, ça existe déjà.
Ah mais non, mais c'est monsieur, il faudra acheter la manette.
Bah non, j'ai déjà la manette GameCube.
Ah, on a des manettes GameCube sur Switch, on en a un peu déjà en avoir.
Moi, je suis déjà, c'est comme ça que je joue à Smash Bros. Hein.
Non, mais ils vont te couiller, faudra acheter la manette spéciale.
Oh, c'est possible.
Non, parce non, que la manette de GameCube est reprenue nativement par la Switch.
Exactement.
Comme une manette pro, mais avec des boutons en moins.
Parce que c'est la meilleure manette du monde. Voilà. Wink wink, rendez-vous dans un mois. Splatoon 3, où on n'a pas appris grand chose de nouveau.
À part qu'ils font toujours des présentations en tenue de laboratoire.
Voilà, ça a l'air toujours aussi délirant. Enfin, moi, je trouve que Splatoon, c'est un bon trip. J'aime beaucoup la licence et je pense que c'est bien. Je pense que Splatoon 2 a bien vécu maintenant et que le 3 fera du bien. Ce que j'espère, c'est qu'ils arriveront à trouver des nouveautés.
C'est ça qui me fait peur, moi. Ouais, voilà, c'est qu'en deux trailers, on n'a pas vu de grosses nouveautés.
C'est ça.
Et ils ont l'air de surtout se focus sur l'univers et le scénario et...
Donc on a eu Splatoon 1.5, on va voir Splatoon 1.8, un truc comme ça.
1.75. Ouais, c'est un peu dommage. Bah, ce serait dommage parce que là, pour le coup, il y a vraiment eu un gros écart entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Et si c'est pour faire la même chose sur une Switch en fin de vie, c'est pas très malin, quoi.
Ouais, je suis pas persuadé. Bon,
autant Splatoon 2 en début de vie de Switch, pertinent, capitalise sur le succès du premier.
Moi, ça me paraissait tout à fait cohérent. Puis en plus, il a été bien suivi. Il y a comme une Octo Extension qui était vraiment très bien.
Mais le 3, en fait, honnêtement, s'ils n'arrivent pas à montrer des nouveautés significatives, même moi qui ai vraiment beaucoup aimé les deux premiers, je vais être là, parce que j'ai pas vraiment envie de me racheter Splatoon.
C'est un peu ça. J'ai un peu peur de ça aussi. Alors après, donnez-nous tort, hein, Nintendo. Hein, je veux dire, vous sortez le truc, il y a 4-5 grosses nouveautés super marrantes. Moi, je suis prêt à remettre la main au portefeuille sans problème.
Et maintenant, ouais, on va parler de l'autre 3.
Ah oui.
Oh là là.
Ah oui.
J'étais un petit peu
Alors,
hein.
Est-ce qu'on s'est fait un tout petit peu troller par Platinum Games? Clairement, oui.
Chris Pratt en tant que Mario, effectivement. Moi, non, je pense que c'est... Il a cru qu'il y échapperait, ce vidéo. C'est quand même une sacrée annonce.
Stop.
On aura Charles Martinet en guest.
Putain de vos mères. Je coupe le stream, ça y est. Bon, Bayonetta 3, donc. Alors, honnêtement... Quand vous avez vu le trailer pour la première fois, vous n'êtes pas dit « Ok, c'est Astral Chain 2 ».
Non, je me suis dit que c'était Bayonetta direct, j'ai reconnu la police.
Ah, le bâtard.
J'ai vu ce titre, j'ai fait « Ah, c'est Bayonetta !»
Voilà, donc Bayonetta 3, dont on a... vu quelques trucs qui ont l'air très marrants. Alors le nouveau style de Bayonetta, il est juste foufou. J'aime beaucoup, beaucoup. Le nouveau style, son nouveau style capillaire, son nouveau costume, il est quand même très sympa. Encore une belle évolution par rapport... Entre le 1 et le 2, déjà, il y avait une évolution vraiment sympa. Le changement de coupe de cheveux et tout, ça lui allait très bien. Je trouve que là, dans le 3, ça lui va très bien aussi. Donc, il y a encore eu un gros effort de fait là-dessus.
Un truc, par contre, que j'ai remarqué dans le trailer, c'est que, du coup, ça a plus l'air vraiment d'être ses cheveux qui font office de vêtements.
C'est vrai que ça a plus l'air
d'être... Parce que quand t'as fait l'invocation, tu vérifies et tu fais... Elle est encore habillée. C'est pas normal.
Et ça, c'est quand même dommage.
Ça, c'est pas normal.
Qu'est-ce qui se passe?
Bah, il y a une tête de qui paye.
Je ne sais pas, parce que pour le 2, finalement, c'était assez... c'était libéré, délivré, quoi, hein, je veux dire. Puis surtout, t'as toujours ces petites répliques...
Oui, non, mais Bayonetta, sans ces petites répliques à la fois pédantes, provocatrices et coquines, on s'ennuierait.
Ah ouais, non, c'est quand même... C'est
aussi le charme du perso.
C'est ça. Et puis l'équilibre est quand même assez subtil, parce qu'à chaque fois, les remarques sont... bien pesé, je ne sais plus qui est l'actrice qui fait Bayonetta, en tout cas en version anglaise.
Ah, pour le coup, la version anglaise, elle est parfaite. Le petit accent british.
C'est ça.
Un petit peu pincé, là.
Ah, il est.
Ça marche particulièrement bien.
Il a l'air très sympa. Donc, on n'a pas appris, malheureusement, grand chose de plus que ça. C'est toujours un jeu d'action. Ça a l'air très sympa. Il a l'air d'avoir plein de nouveaux moves. Par contre, ça, on en a vu quelques-uns.
Alors, ce qui a été remarqué, c'est qu'on avait genre trois styles différents qui vont être sur la croix. Oui. On a vu deux dans le. Si on fait un peu attention dans le trailer, en le regardant une deuxième fois, on voit qu'effectivement, elle en montre deux. Et il y aura des combats de gros monstres.
Oui.
Des battles de kaiju.
Qui avaient déjà plus ou. Enfin, qui ont toujours plus ou moins fait partie de la série, en fait.
Oui, mais là, pour le coup, ça a l'air d'être intégré dans le gameplay. La question, c'est de savoir est-ce que ce sera un truc qu'on pourra déclencher nous-mêmes, ou est-ce que ce seront des phases spécifiques qui seront un peu plus présentes. C'est la vraie question.
Oui, je suis d'accord. Si c'est que du... Pas du précalculé, c'est du prédéfini, ou si c'est... Ah bah maintenant, c'est une phase qu'elle y joue. Finalement, ça changera pas grand-chose par rapport au 2 et au 1, sauf s'il y en a un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu ces phases un peu délirantes. Dans le 1, il y avait la phase en avion qui rappelait Space Harrier.
Ouais.
Dans le 2, il y avait la phase en véhicule, là, l'espèce de tank, enfin de...
Ah, c'était dans le 2 à l'avion. Et c'était pas, du coup, c'était pas Space Harrier, c'était
Star Fox.
Ouais, il y avait Star Fox et il y en avait un aussi qui était inspiré d'un jeu d'avion de Sega.
Ah,
Afterburner. Voilà. Et il y avait aussi un truc avec.
Il y avait une phase en tank, enfin en méca.
Alors t'avais la phase en méca dans le 2 qui est géniale.
Qui est assez fofolle, ouais, je dois bien reconnaître.
Parce que tu te fais vraiment plaisir, il y a des boss du 1 que tu galérais à tuer, tu les exploses en 3 coups.
C'est ça.
C'était vraiment un beau cadeau de fin du jeu. Hein.
C'est exactement ça en fait, c'est un cadeau de fin de jeu, c'est. On te file un truc surpuissant, on te dit vas-y, fais-toi plaisir. Déchire tout, on s'en fout.
C'est ça.
Voilà, amuse-toi. Ça faisait partie. J'aime beaucoup quand les jeux font ça. Je me rappelle qu'il y a un. Je crois que c'est Splinter Cell, le premier, où t'as une mission un peu comme ça, où en fait t'as une phase d'infiltration, mais alors méga chiante, super dure. Si on te voit, tu meurs tout de suite, enfin, c'est le truc ignoblissime. Et à la fin, on te dit, bon, bah, c'est bon, maintenant, tu peux tout faire péter. Alors là, mon gars, c'est tu passes de, comment dire, de Mission Impossible à Terminator, quoi. Tu fais tout péter dans tous les coins. Et donc, ça m'a rappelé exactement ça, quoi. C'est-à-dire que c'est la fin d'une mission relativement difficile aussi, si je me rappelle bien, enfin, d'un chapitre relativement difficile dans Bayonetta 2, où à la fin, on te file le méca en te disant, vas-y, amuse-toi. Fais des dégâts. Vas-y.
Bon, moi je pense que c'est comme tout jeu de Platinum, c'est je vais l'acheter, je vais 2 heures, ça va me casser les couilles et je vais l'oublier dans un coin.
Ce qui est dommage parce que 5 heures plus tard t'as fini le jeu.
Quoi ouais.
5 heures plus tard t'as fini le jeu.
Non mais en fait non, parce que moi je suis trop nul pour y jouer à leur jeu.
Bah honnêtement, Bayonetta tu peux te mettre en... Enfin moi je
trouve pas ça... T'as le mode facile auto hein, si tu veux juste finir le jeu et t'amuser.
Et honnêtement, même en facile, je trouve pas ça, honteux. Je veux dire au sens où tu fais taper, tu fais des gros combos, tu profites des décors complètement fous, tu profites des animations un peu pétées, tu profites quand même un petit peu de l'action et du.
De l'histoire, entre guillemets.
Même pas de l'histoire parce qu'on y comprend jamais rien. Mais...
Oh, en fait, du fun de cinématique parce que c'est ça intéressant. C'est Bayonetta qui va de ses adversaires. Hein.
C'est voilà, tu profites du monster design un peu pété, tu profites, je trouve, du rythme du jeu qui est toujours
Ouais, et puis
Toujours
en plus,
sympa.
pour le coup, Platinum, malgré le fait qu'ils aient un passif quand même de mecs à faire des jeux d'action assez hardcore avec les Devil May Cry ou God Hand, c'est des mecs qui ont mis l'accessibilité de leur jeu genre vraiment dans leur priorité. C'est-à-dire que tous leurs jeux ont des modes faciles, avec des contrôles simplifiés, bah, notamment tout ce qui est jeu de Beat'em All, Nier Automata, les Bayonetta, je crois que même Astral Chain doit avoir ça.
T'as un mode facile dans Astral Chain, t'as un mode guidé ou je sais pas quoi, où
C'est ça,
effectivement tu...
ouais. T'as des modes qui font des auto-combos, où tu te concentres juste sur un ou deux trucs, et c'est bête. Bon, déjà, c'est pas tous les développeurs japonais qui pensent à faire ce genre de truc, un peu d'accessibilité simplifiée. Et en plus, enfin, c'est aussi la preuve que ben, si tu peux en profiter, que tu sois hardcore ou non, et si tu veux être hardcore, tu te fais les pures platines en mode difficile, et puis
En
si tu
mode
veux juste profiter,
climax.
en mode infinite climax.
Oh putain. Et c'est non.
J'adore ce jeu.
Ah moi je suis.
J'étais très content de. Alors, il était déjà annoncé, donc c'était pas une surprise.
Non, mais ça fait plaisir de le voir parce que c'est
Mais
vrai qu'on l'avait jamais vu quoi.
bah, en fait, s'il y avait eu l'annonce en 2017-2018 et depuis plus rien. Et Platinum a bossé sur pas mal de trucs depuis. Hein. Ils ont sorti Nier Automata. Ils ont sorti Astral Chain de sous le manteau, en 2019. Bon, ils ont eu le truc avec Microsoft qui a planté et compagnie, donc c'est assez cool en fait de voir le jeu réapparaître. Et d'ailleurs, le réalisateur du jeu, c'est le gars qui bossait sur l'exclu Microsoft qui a été annulé, dont j'ai oublié le nom.
Underworld.
Dragon machin.
Dragon Force Underworld.
Ouais,
C'est n'importe quoi.
un truc avec
Si, alors, si.
une forme de
Je,
faux Dante en
voilà.
héros.
Je vais regarder si c'est un vrai jeu, Dragon Force Underworld. Je suis sûr que c'est le cas.
Exister en plus.
C'est horrible. Voilà. Bon, en tout cas, moi, ça m'a bien fait plaisir de revoir Bayonetta. J'espère que ça va sortir bientôt. Je crois qu'on n'a toujours pas eu de date.
Ah,
C'est un
c'est
peu
Drag.
dommage.
Attends, non, je confonds avec autre chose. Mais je crois que c'était Dragonborn le nom du jeu,
Oui, c'est
mais.
ça, Dragonborn. Qui effectivement est une exclue Microsoft qui a capoté. Alors, si quelqu'un remet un peu de thune au bout, ça m'étonnerait pas qu'il le finisse par le sortir, mais bon.
Apparemment, c'est un truc qui appartient à Microsoft, donc on n'aura jamais.
Voilà, donc c'est cramé. Merci Microsoft.
C'est ça.
Bref, dans la folie, dans la fièvre acheteuse de Microsoft de ces derniers temps, je suis très étonné qu'ils aient pas fait l'acquisition de quelques studios japonais.
Mais je crois qu'ils se sont rendus compte que ça marchait pas bien avec les studios japonais, donc ils se prennent plus la tête.
C'est possible. C'est possible. Bref, eh bien
Ah,
nous
c'était
allons.
Scalebound, voilà.
Scalebound, putain. Dragonborn, Scalebound, Dragon Force. Je pense qu'on les a toutes faites. Bref. Eh bien écoutez, on va se quitter ici pour cette émission qui a duré, comme d'habitude, beaucoup trop longtemps. Mais bon, donc
J'avoue.
c'est heureusement finalement qu'on n'a pas mis la GameCube dedans, sinon on s'en serait pas sorti.
Et heureusement qu'on n'a pas parlé du casting du film de Mario,
Putain.
présenté par Miyamoto lui-même. Avec Jack Black en Bowser. Je vais y arriver alors.
Est-ce que comme le premier, il ira rejoindre la liste des films qu'on regarde avec des potes en mangeant des pizzas et en rigolant? Tellement il est pourri.
Ah, je sais pas, j'ai
Et je
jamais
sais
osé
pas.
faire ça avec mes potes, je les aime trop.
Je sais pas. Par contre, je voudrais quand même lâcher un mot avant de partir. Donc déjà, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous dire à dans 2 semaines, à dans 1 semaine en podcast. Je vais vous dire que le programme de dans 2 semaines, ce sera Metroid Dread, éventuellement un petit peu de Switch OLED, et probablement un petit peu le pedigree de Mercury Steam, parce qu'on va essayer de s'intéresser à eux, et de voir un petit peu ce qu'ils ont fait pour essayer de les comprendre. Et je voudrais juste dire un mot avant de nous quitter. Donc je vous encourage à dire au revoir maintenant à tout le monde.
Au revoir tout le monde
Voilà.
maintenant.
Jack Black Bozette. Bisous, à dans 2 semaines.
J'ai rien compris.
Moi j'ai compris.